Oui, prendre le large, se rébeller, déserter de l'armée coloniale, quitter les siens, s'opposer au monde tel qu'il est, la vie de Georges est, depuis l'enfance, une aventure traversant les continents et les époques. Rocambolesque parfois, libertaire toujours. Voilà, c'est ce qui est écrit sur la quatrième de couverture du livre de Georges Valadas, paru aux belles éditions et collection Brûle Frontières. Bonsoir Georges, tu es là ?
Oui, bonsoir, je suis là. Oui. Bon. Je t'écoute.
Oui. Voilà. Bon, parfait. Donc voilà, Georges, depuis Paris, merci de nous rejoindre pour cette émission. Alors, juste pour te présenter rapidement auprès de nos auditrices et nos auditeurs, donc nous pouvons redire que tu es né à Lisbonne en 1945, que tu es désertaire de la guerre coloniale 1961-1975 du Portugal, que tu t'exiles en France en 1967 et que depuis tu collabores à plusieurs publications sous le pseudonyme de Charles Rive. Hein, alors par exemple, donc le titre en papier paru chez Spartacus en 72, La mémoire et le feu, à l'insomniaque, China Blues, aux éditions verticales, et le dernier peut-être livre que tu as écrit, Le socialisme sauvage, paru à l'échappée en 2018, et autour duquel nous avions fait une émission, justement le 7 mai 2018, sur ce même Achaïra, avec une interview de ta personne. Voilà, donc également, tu contribues à de nombreuses revues, des journaux, bon, Lundi Matin, mais aussi Le Monde Libertaire, la revue Brasero, etc., etc. Voilà, alors donc, Itinéraire de refus, c'est ta toute dernière parution. Et, eh bien, nous allons en parler, n'est-ce pas ? Alors, c'est vrai que...
Volontiers.
Ouais. Itinéraire d'un refus, alors... Bon, on se disait, avec Progrès, c'est une sorte de récit d'émancipation, le détachement ou le refus, ou des refus successifs au cours de ta vie. Voilà, sortir de la soumission, de la désobéissance, sortir de l'obéissance. Bon, on l'avait perçu un petit peu comme ça. Voilà, mais à toi de nous dire comment tu as conçu ce livre.
Eh bien, merci de m'avoir invité. D'abord, je n'écoute pas votre émission d'habitude, parce que je suis un peu loin. Mais bon, on se connaît depuis pas mal de temps, et puis bon, j'accompagne de loin ce que vous faites. Alors, comment j'ai conçu ce livre? En fait, cet ouvrage s'est réalisé en deux temps. D'abord, il s'est construit petit à petit pendant peut-être une trentaine d'années, peut-être plus, parce que j'avais besoin de revenir un peu sur ma vie, le sens de ma vie, des choix que j'avais faits. Et je voulais réfléchir sur tout ça et essayer de lui donner un sens, même si bon, c'est le sens, il était trouvé par la marche même de la vie, mais bon. Et donc j'ai commencé à fouiller un peu dans des mémoires de mon passé, de mes expériences, et j'ai commencé par écrire comme ça, plusieurs flashs sur des périodes, des moments, des événements qui m'avaient beaucoup marqué depuis mon enfance. Ça n'a pas été facile, ça m'a exigé aussi un travail de mémoire, et où parfois il y a sûrement des éléments de fiction, comme à chaque fois qu'on travaille sur la mémoire. Mais à l'origine, je ne voulais pas le publier, quoi. Ce n'était pas vraiment mon objectif, c'était plutôt de me retrouver avec moi-même. Et au fur et à mesure que ça faisait, ça s'est construit comme un texte, et bon, c'était pas toujours facile parce que ça concerne beaucoup mon intimité, parfois mon intimité, mes émotions, et parfois je mettais de côté, puis je revenais dessus, etc. Et à la fin, il y a peut-être 4-5 ans, j'ai donné une forme un peu d'un texte, mais je n'étais pas du tout décidé à le publier. Parce que c'était trop, je m'exposais trop, c'était trop personnel. J'ai l'habitude d'écrire plutôt des textes politiques, des essais, tout seul ou avec des amis, avec des camarades. Donc c'était la première fois que je me lançais dans un exercice comme ça. Et après, finalement, je l'ai donné à lire à quelques amis qui m'ont dit, mais non, ça peut intéresser d'autres, ça peut parler à d'autres, parce que tu reviens sur des périodes que les gens n'ont pas vécues, d'abord dans un pays qui a été la plus longue dictature du XXe siècle dans l'Europe occidentale, le Portugal, et aussi après, dans le parcours de l'exil, la France, 1968, après, je suis parti un an aux États-Unis, après, je suis revenu, il y a eu la Révolution portugaise, enfin, tout ça. Et donc, les gens que j'ai rencontrés, qui m'ont quelque part formé, ont aidé à me construire. Et alors là, donc, ça s'est passé à un autre niveau, ça m'a pas mal angoissé, je n'avais pas envie de le faire au départ, ça me faisait peur. Et bon, ça traînait encore, et puis parmi les gens à qui je l'avais donné à lire, il y avait une amie qui anime ces éditions magnifiques, Chandaigne et Lima, qui s'occupe beaucoup de la littérature lusophone, du Brésil jusqu'aux anciennes colonies portugaises, en passant par le Portugal. Et voilà, bien aimée, mais elle m'a rien dit. Puis un an après, elle m'a appelé en disant, on va lancer une nouvelle collection, donc cette collection avec ce beau titre Brûle frontières, dont le premier titre, c'est un texte d'un ami, José Vieira, sur son enfance dans le bidonville, à côté de Paris. Et voilà, et donc j'ai dit oui, pourquoi pas, et donc voilà, j'ai accepté de me lancer dans cette histoire.
Oui. Oui, tu disais que le titre Brûle frontière, enfin, ça avait, l'origine était une appellation qui est donnée par des personnes qui sont obligées de migrer. C'est ça? Elles disent
oui, enfin,
elles brûlent les frontières
c'est le titre,
depuis l'Afrique.
C'est pas le titre. Oui, c'est pas le titre du livre, c'est le titre de la collection.
De la collection.
Oui, Brûle frontière, c'est l'expression que les réfugiés, ce qu'on appelle aujourd'hui les réfugiés, puisqu'on est passé de l'immigration, on est passé des immigrés aux réfugiés, ça vous a pas échappé. Encore que c'est un peu réducteur parce que l'immigration traditionnelle continue à exister, mais la plupart des gens, des êtres humains qui arrivent à rentrer dans la forteresse européenne sont maintenant considérés comme des réfugiés. Et donc, surtout les Africains subsahariens qui traversent toute l'Afrique pour arriver en Europe, en traversant la Méditerranée, quand ils ne sont pas morts dans cette mer qui engloutit 3000 personnes par an maintenant au bas mot. Et ils appellent ça brûler les frontières, c'est-à-dire sauter les frontières. Mmh. Et c'est une très belle expression qui est d'ailleurs dans le premier livre de la collection, le livre de José Vieira. Et donc ils l'ont repris pour le titre de la collection, et ça me va tout à fait.
Mais oui, bien sûr. Oui, alors tu disais que c'était un travail de mémoire, c'est aussi un travail de remue-ménage de mon être, tu l'écris quelque part dans ton livre, parce qu'en fait, le livre se déroule selon un parcours chronologique, finalement, ce récit d'émancipation depuis ton enfance jusqu'à... peut-être la situation presque contemporaine. Et donc, on dirait que tu procèdes par détachement successif, par rejet ou par refus successif. Tu peux nous parler de ces différentes étapes?
Oui, bon, il y a plusieurs fils. Bon, c'est des flashs sur une vie que j'ai vécue, que j'ai traversée, et dans laquelle je ne suis pas tout seul, parce qu'on ne vit pas tout seul dans la société, par définition même. Mais donc, il y a plusieurs fils conducteurs entre ces flashs, ces différents moments de mon vécu, qui sont des moments toujours très politiques, évidemment, comme tout dans la vie. Et tu voudrais me poser la question comment je l'ai construit, c'est ça?
Oui, c'est-à-dire, oui, tu parles, il y a un détachement du fait religieux, puis...
Les différents refus de
la politique institutionnelle, de l'autorité, puis du système militaire, enfin, il y a plusieurs étapes comme ça.
Tout à fait. Oui, bon, alors, il y a des moments qui ont été importants, dans ma vie comme dans la vie tout et chacun, mais des moments dans lesquels, des moments plus que d'autres où j'ai été devant la nécessité de prendre position. On parle de la nécessité parce qu'il y a des gens qui ne prennent pas position, qui s'accommodent pour continuer à vivre et pour s'adapter aux situations. Bon, effectivement, mon premier point de rupture avec le monde tel qu'il est, ça a été la religion, de toute évidence, hein, quand je cherche dans ma mémoire d'enfance. Il y a en même temps, et ça c'est un fil conducteur dans le livre, il y a aussi toujours le lien avec mon père, qui était un personnage qui m'a beaucoup marqué, mais qui contre lequel je me suis aussi construit. Mais la religion, ça a été sans doute le moment premier de mon refus du monde, organisé comme il est. Après, il y a eu un moment assez particulier, il faut quand même le mentionner, assez contradictoire, que c'est le fait que je me suis engagé dans une institution militaire. J'ai fait un choix à la fin de l'adolescence, à la fin de l'enseignement secondaire, d'aller dans une école militaire. J'avais aucune idée où est-ce que j'allais, sauf que bon, comme j'étais très attiré par la mer, par les voyages, et que je voulais quitter mon père et l'oppression de la famille, je me suis engagé pour faire une école militaire dans la marine. Et donc, j'ai passé 4 ans et après 1 an dans un navire. Et là, ça a été le 2e rupture parce que j'ai, évidemment, très rapidement, j'étais un gamin déjà assez révolté, assez rebelle. Et je me suis trouvé dans une situation très hiérarchique, très rigide. Et là, bon, il y a eu le rejet, donc, de militarisme, de hiérarchie, de tout un carcan d'obéissance, etc. Et dans un moment aussi où la société portugaise traversait c'était vraiment le début des guerres coloniales sur les 3 fronts africains, le Mozambique, l'Angola, la Guinée-Bissau. Et donc, très rapidement, j'ai compris, pour faire court, que je ne pourrais pas faire cette guerre. Et donc, j'avais pris 1 an après d'être sorti de l'école militaire. Moi, j'ai pris la décision de déserter. Alors, bon, tu disais dans la présentation que j'avais déserté la guerre coloniale. C'est pas tout à fait vrai parce que je l'ai pas vraiment fait, la guerre coloniale. J'étais tout jeune, j'étais dans un navire. J'allais sûrement être envoyé en Afrique, mais j'avais été en Afrique juste pour très temporairement, de façon passagère, dans une visite, disons, de formation militaire. Mais j'ai pas à faire la guerre,
oui,
moi-même.
Oui.
Mais j'ai eu des collègues avant qui l'ont fait. Voilà. Oui. J'ai déserté, oui, avant. Voilà. Mmh. Et après, bon, il y a eu, je crois que ça, c'est vraiment les moments les plus importants de refus dans ma vie qui m'ont toujours après, guidé dans mes choix plus simples, disons. Ça, c'était vraiment les choix les plus difficiles, en particulier celui de déserter, ce qui impliquait le choix de m'exiler, quoi. Et donc, je suis arrivé en France en 67 et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y a eu, 1 an après, des événements que tout le monde connaît, qu'on appelle mai 68.
Oui, oui, c'est ça. Donc, dans ton livre, tu insistes sur le fait que l'important, c'est de faire le pas de côté. C'est une fois qu'on est conscient de la situation, c'est de faire le pas de côté, d'aller au-delà et de faire ses choix. Et à ce moment-là, on peut se retrouver, et c'est là la volonté de l'individu, au croisement de différents parcours parce qu'on fait des rencontres. Alors voilà, peut-être toi, tu as fait de belles rencontres, tu as fait des rencontres qui t'ont aidé à te construire, à constituer tout un univers.
Oui, je pense que j'ai eu... Il y a 2 choses, enfin, si je regarde un peu ma vie en perspective, bon, ce livre est un peu un moment de pause, quoi. Et parfois, je me demande qu'est-ce que je vais faire après, mais je vais continuer à faire ce que j'ai toujours fait, évidemment. Mais si je regarde un peu ma vie à partir de cet événement, de ce petit livre, il y a d'abord le fait que j'ai fait des pas de côté dans ma vie et qui impliquaient, avaient des conséquences qui était importante, qui n'était pas facile. Le choix de déserter est un choix difficile. Ça implique l'exil. L'exil, ça comporte des situations qui sont pas faciles à vivre non plus, qui sont douloureuses, qui marquent la vie. Mais j'ai eu autre chose aussi qui m'a marqué, c'est que j'ai eu vraiment une grande chance. Et en fait, c'est peut-être ça qu'il faut dire, c'est quand on fait des pas de côté, on a des grandes chances d'avoir des rencontres qui sont pas prévues à l'avance et qui te marquent aussi et qui te guident dans tes orientations. Et là, j'ai eu beaucoup de chance. D'abord, j'ai eu la chance d'avoir vécu mai 68 à Paris dans les courants qu'on appelait à l'époque les anti-autoritaires, c'est-à-dire en dehors des courants marxistes rigides, quoi, que ce soit du communisme orthodoxe ou du maoïsme, qui m'ont jamais séduit, ou même du trotskisme. Et donc, j'étais très rapidement, par ma propre expérience, attiré par les courants libertaires. Après une expérience militaire, je ne me voyais pas aller dans des organisations hiérarchiques. Et donc, voilà, là, j'ai rencontré des gens assez formidables, qui m'ont beaucoup marqué, qui m'ont donné beaucoup de choses et qui parlent à travers moi aujourd'hui. Bon, je parle en leur nom, malheureusement, parce que souvent, ils ne sont plus là, quoi. La plupart d'entre eux ne sont plus là.
Oui, alors c'est vrai qu'on ne peut qu'inviter nos auditrices et nos auditeurs à lire ton livre pour voir toutes les belles rencontres que tu as faites à Paris et puis aux États-Unis, puisque aussi il y a tout un parcours aux États-Unis dans tout ce circuit là de formation. Alors juste pour éclairer. Les lecteurs, le livre se décompose en différents chapitres. Alors, Progrès les a comptés hier, il y en a 36 chapitres, avec chacun un titre très évocateur. Et chaque chapitre est précédé d'une petite citation d'auteur en exergue. Voilà, et donc on rencontre aussi bien Nietzsche que Éry de Luca, que Claudio Magris. Enfin, bon, il y a. Pour toi, tu disais que c'était donner de l'épaisseur aussi à tes écrits, non seulement une autobiographie, non seulement un parcours engagé politique, mais également toute cette notion de réflexion et de regard sur le monde.
Oui, bah, tu as oublié Bakounine et Malatesta.
Ah, il fallait bien que tu dises quelque chose.
Oui, absolument. Bon, c'est des petites citations en exergue comme ça que j'ai mis avant chaque petit chapitre, bon, qui ont un lien avec ce qui est dit dans le chapitre. Il faut plus ou moins le chercher, hein, mais il y en a toujours. Et c'est aussi un renvoi vers des lectures qui m'ont suscité une réflexion sur moi-même, quoi, parce que quand on lit, que ce soit Stefan Zweig, ou que ce soit Bakounine, ou que ce soit Marx, ou que ce soit... Je ne sais pas, Henri de Luca, tu as mentionné, j'aime beaucoup ce qu'il écrit. Ou alors, je ne sais pas, je pense par exemple le chapitre sur mon entrée dans cette école militaire, qui s'appelle d'ailleurs Une école militaire, qui commence avec une citation de René Char qui dit « Ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard ni patience ». Donc voilà, c'est évidemment quelque chose qui renvoie au fait que je me suis trouvé dans cette école militaire avec des collègues qui étaient aussi révoltés. Je n'étais pas le seul. C'était une période quand même où la révolte grondait beaucoup, y compris dans des écoles militaires. Et là, effectivement, on a fait ce qu'on a pu pour troubler et pour déranger l'ordre des choses, quoi. Donc voilà, donc c'est... Souvent, la citation renvoie à l'idée qui est dans le petit chapitre. Parfois,
bien
c'est
sûr.
Un peu obscur, mais son cher, on le trouve.
Bien sûr, bien sûr. Très bien, Georges. Écoute, on va te remercier pour la patience que tu as eue de nous attendre au téléphone.
Moi, je pensais que j'allais rester avec vous jusqu'à la fin.
Oui, mais tu peux continuer à nous écouter. Mais bon, il faut que l'on fasse parler d'autres personnes.
Nous aurons
le plaisir de te voir prochainement, puisque le livre est en tournée de présentation dans des librairies. Tu nous disais que tu serais à Gradignan au mois de juin. Alors, je ne sais pas si tu as la date. Peut-être, oui. Voilà, le 7 ou le 17.
Dès que je saurai la date, je vous le dirai.
Très bien.
Vous pourrez voilà. Le dire.
Voilà.
Et je vous remercie vraiment beaucoup. Et est-ce que je peux aussi remercier tout particulièrement André Bernard, mon ami André Bernard, qui a été une des personnes qui m'a vraiment beaucoup poussé pour que je écrive sur ces histoires-là et mm-hmm. aussi pour que je publie. Et qui a fait donc une petite note lecture que vous avez lue avant.
Voilà, oui.
Et donc, je le salue.
Bon, très bien.
Avec beaucoup d'amitié, lui et Anita.
Très bien.
Et je vous salue à vous.
Oui,
aussi.
oui, Georges, merci beaucoup. Et puis,
merci
on
beaucoup.
Te dit à très bientôt. Au revoir.
Merci, bonne continuation. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.